Radio Prague, les informations.
Zuzana Moravčíková remplace David Rath au poste de président du conseil régional de Bohême Centrale. Happening organisé devant le ministère de la Santé pour protester contre les réformes du gouvernement. Tennis, Roland Garros, Tomáš Berdych éliminé en huitième de finale. C'est Zuzana Moravčíková du Parti social-démocrate tchèque qui a été élue présidente du conseil régional de Bohême Centrale. L'ancienne vice-présidente du conseil remplacera donc David Rath, actuellement incarcéré et mis en examen pour avoir accepté un pot de vin. Elle a été élue par les membres du conseil municipal du Parti social-démocrate et du Parti communiste de Bohême et de Moravie. La nouvelle présidente promeut un nouveau style de politique et désire ouvrir un dialogue avec l'opposition. Les syndicats de la santé et des services sociaux, ainsi que l'Association syndicale des médecins et le Conseil national des handicapés ont organisé ce lundi après-midi à Prague, devant le ministère de la Santé, un happening pour protester contre les réformes gouvernementales. Une cinquantaine de personnes se sont réunies devant le ministère. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une série de protestations convoquées par la plateforme civique Stoppons le gouvernement et qui se déroule du 29 mai au 7 juin devant les ministères tchèques. Ce lundi matin, trois experts de la Commission européenne sont arrivés dans la ville de Ústí nad Labem, ouest de la Bohême, afin d'inspecter la gestion des fonds européens dans la région de Bohême-Ouest. Sept autres inspecteurs sont encore attendus jusqu'à vendredi prochain. L'arrivée d'inspecteurs de la Commission européenne a été signalée comme un audit organisé sur demande du ministère tchèque des Finances. Le ministère tchèque de l'Aménagement du Territoire et le ministère des Finances ont suspendu le programme de gestion des fonds européens de la région de Bohême-Ouest. Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, Kamil Jankovski, les fautes des fonctionnaires responsables de ce programme ne sont pas que les fautes des employés individuels, mais pourraient être attribuées aussi aux failles de l'ensemble du système de la gestion des fonds. Et Kamil Jankovski de constater que pendant la suspension du programme, le bureau de la gestion des fonds de la ville de Ústí nad Labem ne pourra pas verser les subventions demandèrent et acceptaient de nouveaux projets. Le deuxième bloc de la centrale nucléaire de Temelín en Bohême du Sud pourra fonctionner au moins encore 10 ans. La société ČEZ, propriétaire de la centrale, a obtenu l'autorisation d'exploiter le deuxième bloc jusqu'en 2022 de l'Office d'État pour la sécurité nucléaire. Les parents qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants par le vaccin combiné dit hexavalent risquent une amende. Telle est la décision de la Cour administrative suprême. Ce vaccin contient plusieurs valences vaccinales contre 6 maladies graves, dont la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. L'obligation de faire vacciner les enfants est stipulée par la loi. Le vaccin est administré aux enfants dans la première année de leur vie. L'homme d'affaires controversé Tomáš Pitr a été condamné ce lundi par la cour municipale de Prague à 3 ans de prison pour des manipulations frauduleuses avec des actions de la société Agrocredit. Tomáš Pitr avait cependant déjà passé 2 ans en détention. Le représentant du ministère public a immédiatement fait appel contre ce verdict. Le condamné sera encore jugé pour d'autres délits fiscaux. Tomáš Pitr, qui se cachait depuis 2007 en Suisse, a été arrêté en 2010 à Saint-Maurice. Il n'a été extradé à la justice tchèque qu'en avril 2012. Tennis. Le joueur tchèque Tomáš Berdych s'est incliné en 8e de finale à Roland Garros devant l'Argentin Juan Martín del Potro sur le score de 6-7, 6-1, 3-6, 5-7. Le match a été disputé en 2 étapes. Alors que dimanche, Del Potro menait 2-7 à 1, 7-6, 1-6 et 6-3 contre Berdych sur un court Suzanne Lenglen plongée dans l'obscurité, le superviseur du tournoi, Stefan Fransson, a préféré interrompre ce duel qui a été achevé donc lundi. Météo, lundi jour de la fête des Dalibor, un temps nuageux à couvert règne sur l'ensemble du territoire tchèque, des pluies et des orages peuvent se produire dans plusieurs parties du pays. Les températures sont plutôt fraîches et ont varié dans la journée entre 16 et 20 degrés pour les maximales. Mardi, le temps en Tchéquie sera d'abord nuageux à couvert avec de la pluie par endroit, puis le ciel se dégagera progressivement. Les températures maximales seront comprises entre 14 et 18 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Magdalena Hrozinková.
faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. People in Need et ADRA, deux plus importantes organisations non gouvernementales en République tchèque, fêtent 20 ans d'aide humanitaire sur le terrain. Dans ce programme d'actualité, nous ferons le bilan de ces 20 années d'action humanitaire. Nous vous parlerons ensuite d'un rallye aérien qui a emmené ce week-end en République tchèque une quarantaine de pilotes français à l'aéroport de Vodochody près de Prague. Ils ont organisé des vols de découverte en faveur d'enfants handicapés. Radio Prague a été sur place. Reportage dans quelques minutes. Enfin, le thème de notre rubrique sportive habituelle est évident, c'est le championnat d'Europe de football. Deux des plus importantes organisations non gouvernementales tchèques fêtent leurs 20 ans d'existence. Retour sur l'action de l'ONG ADRA et People in Need, Člověk v tísni en République tchèque et dans le monde, ainsi que sur les résultats obtenus au cours de ces missions. Anna Kubišta.
Quelques 7 milliards de couronnes, telle est la somme que deux ONG, ADRA et People in Need, ont investi aux quatre coins du monde en 20 ans, apportant leur aide et leur savoir-faire aux habitants des zones les plus pauvres, en proie à des conflits locaux ou à des catastrophes naturelles. People in Need est la plus grande ONG de République tchèque et même d'Europe centrale. Son histoire remonte, en réalité, à 1988, au moment du terrible séisme qui frappa alors l'Arménie. À l'époque, un jeune étudiant en sciences naturelles, Shimon Panek, décide avec quelques autres comparses, d'organiser une aide de Tchécoslovaquie envers ce pays frère du bloc soviétique. Shimon Panek est directeur de People in Need.
En décembre 88, l'Allemagne, les États-Unis, la France et même la Roumanie, par exemple, ont apporté leur aide en Arménie. Nous avions un peu honte que la Tchécoslovaquie ne compte pas parmi les pays qui apportaient leur aide. Nous, trois étudiants, avons décidé de nous rendre à l'ambassade de l'Union soviétique sans demander l'autorisation. Les autorités soviétiques nous ont promis d'organiser le transport de l'aide humanitaire vers Erevan avec la compagnie aérienne Aeroflot. Par la suite, nous avons annoncé au bulletin d'information de la télévision tchécoslovaque une collecte organisée dans ce but. Personne ne se posait de questions et tout allait très vite. Il n'y a pas eu de réaction négative de la part de l'État. Mais j'estime que quelques années plus tôt, ce geste aurait été considéré comme une manifestation exagérée de liberté et une activité indépendante.
Si l'organisation People in Need ne verra le jour officiellement qu'après 1989, cet acte fondateur est d'autant plus important que la majeure partie des pionniers de l'ONG ont été des acteurs importants de la révolution de velours. À l'époque, l'ex-Yougoslavie se déchire dans les années 90, la Tchétchénie est pilonnée dans les années 2000 et People in Need est toujours là, de même que dans bien d'autres pays en proie à des conflits locaux ou des catastrophes naturelles, comme en Asie du Sud-Est après le tsunami en 2004. C'est là aussi que l'aide de l'ONG ADRA se porte immédiatement. Dans un élan de générosité sans précédent de la part des Tchèques, souvent taxés d'indifférents, l'ONG recueille 124 millions de couronnes, sa plus grosse collecte. Jiří Barta, directeur d'ADRA.
La spontanéité des dons était telle que non seulement nous avons été heureux de voir que les gens nous faisaient confiance, mais aussi nous savions que c'était notre responsabilité de faire quelque chose avec cet argent sur place.
Mais l'action des deux ONG se reporte également vers la République tchèque lorsque le besoin se fait sentir, comme en 2002 lors des inondations destructrices qui frappent le pays tout entier. Jan Kamenický est directeur financier de People in Need.
Il est intéressant de voir que la majeure partie de l'aide est venue des Tchèques eux-mêmes grâce à une collecte qui en tout a représenté 200 millions de couronnes.
Et quand l'aide de People in Need n'est pas uniquement en espèces, elle l'est de manière concrète avec des envois d'animaux domestiques aux agriculteurs d'Afghanistan par exemple. De même, cette aide est réinvestie sur place dans la formation des populations locales, l'idée étant que ceux-ci puissent ensuite subsister à leurs besoins par leurs propres moyens après avoir acquis un savoir-faire auprès des travailleurs des ONG, une façon d'éviter les écueils du paternalisme bon ton.
Samedi 2 juin, une quarantaine de pilotes professionnels et amateurs venus de toute la France ont organisé des vols de découverte destinés à plusieurs dizaines d'enfants handicapés tchèques. La manifestation s'est déroulée à l'aéroport de Vodochody, à une trentaine de kilomètres au nord de Prague, dans le cadre du Rallye Air France. La 18e édition du rallye, qui avait comme point de départ samedi matin à l'aérodrome de Strasbourg, emmène les pilotes à la découverte de la République tchèque, de la Hongrie et de la côte adriatique. Jean-Michel Collineau est président de l'association Rallye Aéro France, basée à Angers. Il nous raconte l'histoire de ces rallyes aériens.
1995, création du rallye à la demande du maire de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui est au bord de l'Atlantique, qui est connu pour ses bateaux, ses avions. Et puis on a commencé sur l'Espagne, Portugal, et on a étendu après jusqu'au Saint-Louis du Sénégal. Ensuite, on est revenu sur la Tunisie, la Libye, qu'on a fait trois fois, le Liban, qu'on a fait l'année dernière. Et bah, maintenant, on fait la voie aérienne qui a été créée en 1920 ici. Donc là, c'est le côté mythique, puisque en 1920 ont eu lieu les premiers vols entre Paris et Bucarest, avec des étapes à Strasbourg, Prague et puis à Budapest. Donc on fait la même chose. Voilà.
Ça se passe bien pour l'instant.
Oui, on a la météo, il fait bon, il fait une température agréable, ça va.
Médecins, industriels, hommes d'affaires à la retraite ou actifs, mais tous passionnés depuis des années par l'aviation. Thierry Blanza travaille à France Télécom, il participe au rallye presque tous les ans.
Nous sommes 14 avions, ça représente à peu près, on va dire, entre 40 et 50 personnes à peu près.
Donc
pilotes et non-pilotes, tout le monde ne pilote pas, il y a aussi des passagers dans les avions.
Est-ce que vous pourriez dire à quoi ça ressemble, donc un rallye comme ça?
Ah, c'est difficile à dire. Ça ressemble d'abord à c'est des différentes individualités rassemblées. Dans un avion, les pilotes ou les passagers, ils sont tout seuls à bord. Il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les avions. Et un peu, tout le monde suit un petit peu le périple. Et il y a une activité au sol qui consiste à visiter les pays qu'on traverse et à découvrir la plupart du temps des régions qu'on ne connaît pas ou des pays où on n'a jamais été.
Les rallyes Air France ont donc aussi une dimension solidaire, sociale et humanitaire, notamment dans le cas des vols en Afrique. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la piste de l'aéroport de Vodochody d'où décollent de petits avions de type Cessna, avec à bord des enfants souffrant d'un handicap mental ou physique et leurs accompagnateurs. Christian Dalbin de Limoges pilote un de ces appareils.
On va emmener un petit garçon qui est épileptique, donc il est accompagné de son père ou son grand-père, je ne sais pas.
Náš vnouček je Martin Malíček, takové pěkné jméno.
En effet, j'accompagne mon petit-fils qui s'appelle Martin Malíček. Nous sommes tous les deux ravis parce qu'il n'a encore jamais pris l'avion. Cette opportunité qui nous est offerte par Rallye Aéro France nous a fait un énorme plaisir.
A doufáme, že se budeme těšit z toho.
Těšíš se?
Didier Cariou est lui aussi pilote. Il assiste au décollage des avions avec des enfants à bord.
Alors c'est toujours une émotion de voir les enfants monter dans l'avion puis sortir après. Sauf s'ils ont été malades, évidemment. Ça va peut-être être un petit peu turbulent à cause des nuages qui sont bas, mais ça devrait être quand même agréable.
Donc il y a quatre avions qui vont décoller en même temps,
dans l'intervalle de quelques minutes, ils vont décoller effectivement. Et puis ensuite, on va mobiliser d'autres appareils pour les autres enfants qui souhaiteront partager ce plaisir. Donc les quatre premiers vont décoller avec un adulte accompagnateur, un ou deux enfants par avion. Et on avait fait la même opération il y a 2 ans à Tunis. On avait eu beaucoup d'émotions aussi avec des enfants. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotions et de plaisir qu'on fait partager notre passion aux enfants. Ouais.
Et ça se passe plus ou moins de la même manière partout dans tous les pays?
Alors l'idée c'est de donner des points caractéristiques que connaissent les enfants pour qu'ils puissent, on l'imagine, reconnaître ce qu'ils vont survoler. Ben là, on a des châteaux, enfin des endroits caractéristiques des environs qui vont être survolés. Donc ça permettra aux enfants de reconnaître ce qu'ils connaissent et puis de voir le pays, leur environnement du ciel, ce qui est toujours magique. Et puis ça dure un quart d'heure, 20 minutes environ. Parce qu'au-delà, quand on n'a pas l'habitude, on peut être malade ou saturé. Mais ça dépend des conditions météo. Mais aujourd'hui, là, c'est tout à fait correct.
Retour sur l'aéroport de Vodochody ce mardi dans notre rubrique Panorama. Vous êtes toujours sur Radio Prague et on passe maintenant à l'actualité sportive. Jamais depuis la partition de la Tchécoslovaquie, la République tchèque n'a manqué une phase finale d'un championnat d'Europe de football. Finaliste et demi-finaliste malheureux en 1996 et 2004, les Tchèques ont aussi été éliminés dès le premier tour en 2000 et 2008. Placés dans un groupe a priori dans ses cordes, mais sans en être favoris, la Reprezentace, qui n'a plus le talent de ses dévancières, aborde son cinquième consécutif sans se prendre la tête et avec l'ambition d'abord de se qualifier pour les quarts de finale. Comme l'ont confié en français à Guillaume Narguet, le gardien Petr Čech et le manager Vladimir Šmecl, s'ils restent humbles devant la tâche qui les attend, conscients de leur potentiel, les Tchèques n'en rêvent pas moins d'un exploit.
Sport en République tchèque.
L'équipe de République tchèque de football a pris la direction de la Pologne, co-organisatrice avec l'Ukraine de la phase finale du championnat d'Europe. Dimanche, c'est en train que Petr Čech, Tomáš Rosický et leurs coéquipiers ont effectué les 280 km qui séparent Prague de Wrocław, où ils disputeront leurs trois matchs de groupe, à commencer par le premier contre la Russie vendredi soir. Avant cela, la Reprezentace a disputé contre la Hongrie vendredi à Prague son dernier match amical après deux semaines de préparation. Une répétition générale et des adieux avec leur public manqué puisque les Tchèques se sont inclinés 2-1. Malgré une nette domination territoriale et dans la possession du ballon, les hommes du sélectionneur Michal Bilek se sont créés trop peu d'occasions de but et se sont montrés insuffisamment dangereux pour espérer beaucoup mieux face à une équipe magyare recroquevillée dans son camp pendant la quasi-totalité de la rencontre. Déficitaires dans l'imagination à l'approche du but hongrois, les partenaires de Tomáš Rosický, toujours absent vendredi par mesure de précaution suite à une blessure à un mollet, ont une nouvelle fois démontré combien la qualité du jeu tchèque dépendait de la présence de son capitaine, comme l'admettait au coup de sifflet final son compère du milieu de terrain, Petr Iráček.
Tout le monde sait dans quelle forme étincelante a joué Tomáš Rosický ces derniers mois. Bien sûr, c'est un élément indispensable dans notre équipe. Il est irremplaçable. Son intelligence de jeu, ses passes dans les derniers mètres, tout cela nous a beaucoup manqué aujourd'hui. Il ne nous reste plus à espérer que Tomáš sera bien remis pour le match contre la Russie et qu'il pourra nous aider.
Ce lundi, Tomáš Rosický, qui a repris contact avec le ballon la semaine dernière et augmenté depuis progressivement les charges de travail, a participé normalement à l'entraînement avec le reste du groupe tchèque, confirmant ainsi qu'il devrait être bien présent sur le terrain vendredi au moment du coup d'envoi du match contre la Russie. À la différence de nombreuses autres sélections, la République tchèque peut donc compter sur un groupe de joueurs au complet pour débuter l'Euro, le forfait d'aucun cadre n'ayant été enregistré. Et malgré la défaite contre la Hongrie, conséquence également de grossières erreurs défensives sur les deux buts encaissés, les Tchèques ont rejoint la Pologne, certes conscients des limites qui sont les leurs depuis plusieurs saisons déjà, mais aussi confiants en leurs moyens du moment. Avec l'étiquette d'équipe dont personne n'attend monts et merveilles, pas même au pays, la République tchèque n'aura pas grand-chose à perdre et ne pourra que surprendre, comme en 1996, où la génération montante et encore inconnue des Nedvěd et Poborský avait atteint la finale de l'Euro. Des finales, Petr Čech en a déjà disputé deux cette saison, avec Chelsea, dont tout récemment celle à l'issue très heureuse de la Ligue des Champions. Grand artisan de la victoire du club londonien contre le Bayern de Munich au tir au but, l'ancien gardien du Stade Rennais espère bien revivre ses fortes émotions durant l'Euro avec l'équipe nationale, comme il l'a confié en français au micro de Radio Prague. Petr Čech.
Évidemment, c'était un événement très joli et magnifique. Et d'avoir gagné la Ligue des Champions, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Je suis là avec un bon esprit et j'espère qu'on va continuer comme ça pendant l'Euro et qu'on va avoir du succès.
N'a-t-il pas été trop difficile pour vous de vous replonger dans le football après les 2-3 jours de folie qui ont suivi après la victoire avec Chelsea ?
Non, j'ai pensé que le championnat d'Europe, c'est la motivation lui-même, parce que J'ai jamais gagné un championnat d'Europe. Et je sais que ça va être difficile pour nous de gagner cette championnat d'Europe, mais on va tout essayer pour progresser petit à petit dans le tournoi. Et je pense que c'est aussi un événement qui est vraiment spécial pour un footballeur, parce qu'en jouant avec l'équipe nationale, un grand tournoi comme ça, ça fait toujours du plaisir.
On ne parle pas beaucoup de l'équipe tchèque qui a connu des difficultés pour se qualifier. Ça va peut-être un peu mieux, c'est depuis, on va dire, 6, 7, 8 mois. Est-ce pour vous un avantage qu'on ne parle pas beaucoup de la République tchèque? Tout le monde pense que c'est une équipe qui ne va pas aller très loin dans le tournoi.
Oui, je pense qu'on n'est pas parmi les favoris. On peut tranquillement préparer notre tournoi et on peut se concentrer pour nous-mêmes. Et je pense que ça peut être un avantage parce que personne n'attend de quelque chose de la République tchèque et on peut surprendre tout le monde.
Que pensez-vous de la composition de votre groupe, la Russie, la Grèce et la Pologne? Quelles sont vos chances? Quel regard portez-vous sur vos adversaires?
Je pense que c'est un groupe qui est bien en égalité. Je pense que toutes les équipes ont la même possibilité de se qualifier pour le quart de finale. Même si la Russie peut être le favori pour le groupe, mais je pense que nous, la Grèce ou la Pologne, même la Russie, on a tous les mêmes chances pour se qualifier. Je suis persuadé que ça va se jouer sous les détails. J'espère qu'on va se qualifier tout simplement.
Avant le tirage au sort de la composition des groupes, en décembre dernier, la République tchèque figurait dans le chapeau 4 des équipes supposées les plus faibles et pouvait donc craindre le pire, comme se retrouver dans le groupe B en compagnie de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal, ou du C avec l'Espagne et l'Italie. En tombant finalement dans le groupe A, très Europe de l'Est et assurément le moins sexy des quatre groupes, les Tchèques sont bien conscients d'avoir été épargnés. S'ils s'en félicitent, ils ne sont toutefois pas dupes. Leurs trois adversaires sont eux aussi satisfaits d'avoir hérité de la République tchèque dans un groupe qui, sur le papier, peut être considéré comme le moins relevé de la compétition. Manager de la Reprezentatie, l'ancien Lensois et Bordelais Vladimir Schmitzer se veut d'ailleurs prudent lorsqu'il s'agit d'évoquer les ambitions tchèques, comme lui aussi nous l'a confié dans un français qu'il n'a pas oublié, Vladimir Schmitzer.
Oui, je suis optimiste parce que je pense que c'est jouable. Dans tous les pays, ils sont optimistes. Tout le monde pense qu'ils vont sortir de ce groupe. Qu'est-ce qui est très intéressant, ce groupe, je pense, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Et nous, on est content qu'on est dans ce groupe parce que vraiment, il y a des groupes qui sont très, très difficiles. Et je ne voulais pas dire qu'on est favori. Je pense que la Russie, ils montrent qu'ils sont forts. Ils ont gagné 2-0 au Danemark. Alors, je pense que les favoris, ce sont la Russie. Bon, on joue contre Pologne, c'est l'équipe de domicile, c'est jamais facile. Mais on joue le troisième match contre la Pologne, ça peut jouer pour la. Pour qualification, ça peut être un match difficile pour nous. Et la Grèce, on n'a jamais gagné contre. Alors, je ne sais pas. Sur papier, de temps en temps, c'est facile, mais sur le terrain, ça change toutes les statistiques, ça peut changer. Voilà, moi, je suis content qu'on est dans ce groupe. Et surtout, je suis content qu'on joue au Wrocław. Tous les trois matchs, c'est très bien pour nous parce que c'est pas loin de la Tchéquie.
Donc optimiste, mais raisonnablement.
Exactement, optimiste, mais je ne pense pas qu'on est favori dans ce groupe.
La fin de la phase éliminatoire, en poule, puis durant le barrage qualificatif contre le Monténégro et les matchs amicaux qui ont suivi, ont montré que la République tchèque, même sans être transcendante, avait progressé dans le jeu et gagné en maîtrise cette saison. Petr Čech explique cette progression.
Je pense que c'est aussi l'avantage d'avoir une équipe en Champions League. On avait Victoria Plzeň qui a joué la Champions League et il y avait des joueurs qui affrontaient Barcelone et Milan AC. Et je pense que ça leur donnait beaucoup de confiance et beaucoup d'expérience. Et ces joueurs-là qui sont maintenant arrivés en équipe nationale, évidemment, c'est pas des joueurs qui sont surpris avec toutes les choses qui se passent autour de l'équipe nationale. Et maintenant, ils savent qu'en jouant contre Barcelone, ils ne doivent pas avoir peur contre une équipe comme la Russie ou les autres. Et je pense que c'est le plus grand avantage. Et je pense qu'on a aussi joué ensemble dans les moments difficiles. On est passé les moments difficiles. Et maintenant, même l'esprit est beaucoup mieux. Ça veut dire qu'on peut jouer sans pression le tournoi. Parce qu'on était sous beaucoup de pression pendant la qualification. Et maintenant, le soulagement était agréable.
Pensez-vous que l'esprit de groupe, alors il y a vous, il y a Tomáš Rosický, Milan Baroš, Jaroslav Pašil, qui sont un peu plus connus, on va dire, ou très connus, le reste du groupe, le reste des joueurs, les lettement moins, pensez-vous que c'est pour vous aussi un avantage?
Je pense qu'on a une bonne balance dans l'équipe, parce que ces joueurs-là, ils n'ont jamais joué championnat d'Europe, ils vont être beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition de progresser, de bien jouer. Et on a aussi des joueurs avec l'expérience comme moi, ou Jaroslav Pašil, Tomáš Rosický, même Milan Baroš, je pense que c'est ça qui peut nous donner un avantage pendant les matchs difficiles, parce qu'on a une bonne balance.
Si le sélectionneur Michal Bilek s'en tient à ce qui semble devoir être son équipe type, pas moins de 5 joueurs qui évoluaient dans un club tchèque en début de saison, dont 4 à Plzeň, devraient figurer dans le 11 de départ contre la Russie vendredi. Une composition d'équipe qui n'est pas sans rappeler celle de l'Euro 1996, quand les Nedvěd, Poborský, Schmitzer et autres Bejbel et Suchoparek portaient eux aussi encore les maillots des Sparta et Slavia de Prague dans le championnat tchèque. Mais là sans doute s'arrête le parallèle avec 1996, car même avec un Petr Čech et un Tomáš Rosický rayonnant au printemps et au meilleur de leur forme, il reste bien difficile de croire, à quelques jours de l'entame de l'Euro, que la représentance actuelle a le potentiel pour aller aussi loin que sa glorieuse devancière.
Voilà, c'est avec cette rubrique sportive que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention. À demain sur Radio Prague.